au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'Amérique et vous, votre fenêtre sur la vie ici aux États-Unis. Timothée Donagmaï en votre compagnie dans cette édition consacrée au coup d'envoi de la course à la Maison-Blanche. Comme d'habitude, vos interventions en direct au 001, le code pour les États-Unis 202-619-3140-001, 202-619-3140. Notre invité ce soir est le professeur Franz-Antoine Lecomte de Kingsborough College à New York. Bonsoir, professeur. Voilà. Alors, professeur, nous vivons ici aux États-Unis le début d'une période très, très excitante. La course, ou plutôt le marathon vers la Maison-Blanche est lancée et l'issue de cette course nous fera connaître le 45e président des États-Unis ou la 45e présidente puisqu'il y a au moins une dame dans la course, professeur.
D'accord. On ne connaîtra le prochain président des États-Unis qu'en novembre 2016. Mais il faut dire que les candidats sont déjà en lice. Et puis, les candidats doivent d'abord obtenir l'investiture de leur parti. Alors, le jeu est très ouvert chez les Républicains avec plus d'une douzaine de candidats. Tandis que, enfin, du côté des démocrates, Clinton semble être archi-favorite. Eh bien, voilà où nous en sommes. Du côté démocrate, il y a Hillary Clinton. 60 ans. Elle a annoncé sa candidature le 12 avril dans une vidéo publiée sur Internet. C'est la deuxième fois qu'elle se lance à la conquête de la primaire démocrate. Après sa défaite face à Barack Obama en 2008, elle est la grande favorite de son camp avec 60% des intentions de vote, mais elle devra réussir à gommer son image autoritaire et bien sûr faire oublier les scandales au cours de ses emails, au cours ou de la présidence de son mari. Enfin, Obama a indiqué qu'il n'apporterait pas de soutien automatique à son ancienne rivale et pourtant il a eu des mots assez aimables en disant qu'elle était savante, qu'elle était très décidée, qu'elle ferait vraiment une très très bonne présidente des États-Unis. Donc alors là, mais du côté des Républicains, mon Dieu, on n'en compte plus, on a à peu près une douzaine.
Alors nous allons parler.
L'intention et... de se déclarer.
Oui, professeur, nous allons.
Pour le moment, il y en a trois. Il y a Monsieur Ted Cruz, bien sûr. Il y a un deuxième sénateur, c'est Rand Paul, âgé de 52 ans. Et puis, il y a Marco Rubio, très très jeune, qui semble apporter beaucoup d'espoir, si vous voulez, dans le camp des Républicains. Mais pour le moment, le jeu est corsé, parce que Hillary Clinton vient de lancer sa candidature à la candidature. Et bien, pour le moment, on parle beaucoup d'elle dans tous les médias des États-Unis, que cela soit les journaux, la télé, la radio, et bien tout le monde semble parler d'Hillary. Mais
alors,
cette fois-ci, je crois qu'elle aura également fort à faire. Parce qu'il y a toute une équipe, si vous voulez, il y a une pléthore de candidats républicains.
Professeur,
si on fait la comparaison, on ne sait pas, parce que c'est une très, 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 très longue, c'est un marathon, comme on l'a dit, et on est à près de 500 jours, si vous voulez, de l'élection présidentielle en 2016. Donc, alors, beaucoup de choses peuvent arriver, mais cependant, Hillary, il y a beaucoup de choses, si vous voulez, de son côté. Premièrement,
oui.
Elle est la première femme qui pourrait devenir présidente.
Allô, professeur. Professeur, nous allons donc parler des candidats des différents camps dans un instant. Mais vous l'avez dit, c'est une longue course et c'est aussi une course une guerre un peu fratricide au sein des différents camps puisque les membres d'un parti vont s'affronter entre eux avant qu'un vainqueur n'émerge pour affronter le porte-étendard de l'autre parti.
Oui, c'est ça, c'est comme ça, c'est traditionnel pour les élections primaires, c'est-à-dire c'est une sorte de lutte fratricide, les candidats, si vous voulez, du même parti, eh bien, luttent justement pour l'investiture, eh bien, rien n'est épargné, c'est une course qui est assez dure, assez longue, c'est vraiment tout à fait éreintant, mais comme j'ai dit, pour le moment, en fait, l'investiture du Parti démocrate semble aller, si vous voulez, du côté d'Hillary, parce que pour le moment, il n'y a vraiment pas, il y a presque personne à avoir fait la déclaration. Par exemple, la déclaration de candidature, il y a le vice-président qui hésite et qui ne peut même pas faire cette déclaration. Pourquoi ? Parce que justement, il est très très bas, si vous voulez, dans les sondages. Sa cote de popularité est très 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 faible. Il y a d'autres gens comme la sénatrice Elizabeth Warren qui, on parle beaucoup d'elle du côté démocrate, mais on sait qu'elle va pas se lancer. Et puis il y a Hillary qui du centre évolue un peu vers la gauche. C'est un peu comme ça, c'est-à-dire pour ne pas être trop attaqué, si vous voulez, de la gauche. Donc on doute d'une éventuelle candidature de la sénatrice Elizabeth Warren. Et du côté de la vice-présidence, c'est presque fait. Le vice-président des États-Unis n'est pas très très connu et sa cote de popularité vraiment est trop basse. Donc pour le moment, du côté démocrate, il n'y a qu'Hillary à faire face, si vous voulez, à cette pléthore de candidats républicains.
Alors, professeur, nous avons un auditeur en ligne, c'est Yao Roger de Côte d'Ivoire. Bonsoir, Roger.
Bonsoir, monsieur.
Voilà, allez-y.
Oui, je voudrais poser une question au professeur. Oui, c'est pour lui demander, sachant même que Hillary Clinton, son mari, a été déjà président de la République et elle a déjà perdu une fois contre Barack Obama, ben, est-ce que cela ne va pas peser sur elle? Et sachant que avec tous les candidats qui sérieux qui sont autour d'elle, bon, pour les primaires, moi je pense que elle a une chance, mais pour les élections générales, je ne pense pas. Donc ma question, est-ce que ça ne va pas peser sur elle?
Voilà, merci Roger. Professeur?
Et ça, j'ai dit tous les mots, mais
oui, alors, est-ce que le fait,
répéter,
c'est ça, le fait,
question,
c'est ça, donc notre auditeur veut savoir si le fait d'avoir déjà été à la Maison Blanche avec son époux, l'ancien président Bill Clinton, est-ce que cela ne pourrait pas être un handicap pour l'ancienne première dame?
Eh bien, on peut dire oui et non. C'est-à-dire, on veut toujours savoir, on veut vraiment, on est à la recherche du nouveau. C'est vrai en un sens, parce que Hillary a été mêlée à la politique, mon Dieu, beaucoup plus d'une vingtaine d'années. C'est-à-dire, elle n'a plus rien de neuf, si vous voulez raconter. C'est vrai en ce sens, mais de toute façon, c'est que on essaie toujours de se présenter d'une nouvelle façon. Par exemple, comme elle avait dit d'ailleurs, elle veut être la championne, elle veut être la championne du peuple. Elle veut, en officialisant sa candidature à l'élection présidentielle de 2016, elle a voulu répondre à trois questions, disons, cruciales. La plus importante, c'était pourquoi veut-elle devenir présidente après une longue carrière politique et publique? Et puis, après avoir rempli plusieurs rôles d'envergure, de première dame des États-Unis, de secrétaire d'État, de sénatrice, etc. Mais elle veut justement diminuer l'inégalité qui persiste aux États-Unis, l'inégalité politique, l'inégalité économique, c'est-à-dire elle trouve toujours quelque chose à dire, et bon, voilà, moi je crois que c'est une candidature tout à fait sérieuse. Il est vrai que le fait d'avoir été avec Bill Clinton pendant ces longues années aux États-Unis, à la Maison Blanche, bien sûr, ça peut être un peu négatif, mais quand même, il faut dire que Bill Clinton a été l'un des présidents les plus assurés succès, si vous voulez, de l'histoire récente des États-Unis. Il y a le boom économique, il y a celui qu'on a dit qui a été le premier président noir des États-Unis. Donc il y a un Bill Clinton qui est toujours charmant, qui est séducteur, et lorsqu'on pense au Clinton, on pense également aux années de prospérité aux États-Unis.
Alors, professeur, notre ami Lucien Sniper Maréchal Lifindiki Paris, écrit sur Facebook. Est-ce que les États-Unis ont déjà été dirigés par une présidente? Eh bien, la réponse est non. Et Madame Clinton a la possibilité de devenir la première présidente des États-Unis. Alors, professeur, est-ce que les Américains sont prêts à faire confiance à une femme pour diriger le pays?
Ah oui, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, durant de très très longues années, je crois que cette question s'est débattue et tout le monde était plus ou moins sceptique à l'idée d'avoir, si vous voulez, une femme qui dirigerait les États-Unis. Mais non, et pour le moment, c'est pas ça, parce qu'on finit par remarquer qu'il y a une sorte de mythologie présidentielle américaine qui s'est construite autour de cette image machiste et virile. Et les figures des présidents les plus populaires sont par exemple Abraham Lincoln avec la guerre de sécession, Theodore Roosevelt au début du XXe siècle qui incarnait une réaction face à une Amérique qui semblait s'assoupir, ou encore John F. Kennedy dans sa campagne a joué à fond sur ce thème, une Amérique prête à montrer ses muscles et la quête d'une nouvelle frontière.
Et Ronald Reagan,
c'est celui qui a l'esprit pionnier, prêt à prendre le risque d'affronter l'inconnu. Et justement, Hillary Clinton a eu une image de femme dure et déterminée à même d'affronter les défis auxquels doivent faire face les États-Unis. Donc, je crois que c'est une grande chance pour elle par rapport à 2008.
Voilà, l'Amérique et vous, nous allons vous retrouver après cette pause.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Timothée Donangmaï, en votre compagnie ce soir, notre numéro ici dans le studio 13, 202-619-3140, 001-202-619-3140, notre invité, le professeur Franz-Antoine Lecomte de Kingsborough College à New York. Alors, professeur, nous avons parlé des démocrates et de la principale candidate démocrate pour le moment, Madame Hillary Clinton. Mais côté républicain, les candidats se bouscule au portillon. On a bien sûr le sénateur Ted Cruz du Texas, son collègue Rand Paul du Kentucky, mais surtout, professeur, on a le jeune sénateur de 43 ans, Marco Rubio, de la Floride, qui veut user de sa vigueur et de son enthousiasme pour battre de vitesse ses aînés.
Bon, oui, c'est-à-dire on parle beaucoup de Marco Rubio, 43 ans, il s'est déclaré candidat le 13 avril à Miami, cœur de la communauté cubano-américaine, lui-même d'origine cubaine. Il a choisi la symbolique Freedom Tower, par où ont transité des milliers d'exilés cubains dans les années 60 pour faire son annonce. Il est admiré par les républicains qui lui prédisent un brillant avenir. Il a connu une ascension politique express, devenant tour à tour conseiller municipal, président de la Chambre des représentants de Floride, et sénateur de Floride en 2010. Marco Rubio a perdu un peu de son aura après s'être brouillé avec le Tea Party sur l'immigration et la régulation des sans-papiers qu'il a un temps soutenu. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espoir du côté de M. Marco Rubio, un jeune sénateur assez dynamique, assez sympathique si on veut, mais ce qui faisait beaucoup plus la force de Marco Rubio, c'était justement ses rapports, assez proches qu'il y avait avec le Tea Party. Et il a perdu justement à l'occasion de deux thèmes, si vous voulez, politiques, la façon dont il les a abordés. D'abord, c'était sur l'immigration, parce que lui, vous savez, étant cubain, et il se trouve dans une position un peu difficile également, parce qu'il va pouvoir, il va toujours dire qu'il favorise l'immigration, tandis que du côté général, les républicains ne favorisent pas l'immigration. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est encore sur l'immigration, parce qu'il s'agit de la régularisation des sans-papiers. Et pourtant, il a soutenu à un certain moment de sa carrière cette position. Pourquoi? Parce qu'il a compris justement les problèmes ardus, si vous voulez, auxquels sont confrontés les gens qui demeurent sans-papiers dans une Amérique qui n'avait pas déjà une très très grande économie, si vous voulez, qui bougeait. Donc, alors là, c'est vrai qu'il suscite encore beaucoup d'espoir du côté républicain, mais on a bien l'impression qu'à cause de sa brouille avec les gens du Tea Party, avec les gens les plus conservateurs, si vous voulez, et même un peu extrémistes, si vous voulez, du côté républicain, eh bien là, je crois que ça pourrait peut-être se montrer comme une faiblesse.
Mais en même temps, professeur, le sénateur sénateur Rubio étant membre de la communauté hispanique, c'est quelque chose d'un élément très intéressant, très important pour les républicains qui jusqu'ici ont du mal à si vous voulez, persuader les minorités, les noirs, les hispaniques à voter en masse pour eux.
Je suis tout à fait d'accord. Moi, je crois que le sénateur Rubio ferait un formidable candidat, par exemple, à la vice-présidence. C'est-à-dire, ce serait une façon d'attirer les minoritaires, c'est-à-dire du côté des républicains. Mais il faudrait d'abord qu'il soit choisi. Il faudrait d'abord, si vous voulez, qu'il puisse vraiment sortir victorieux de toutes les joutes, disons, d'ordre politique qui vont avoir lieu jusqu'à l'élection, si vous voulez, de novembre 2016. Donc, alors, c'est tout à fait, c'est vraiment très difficile, c'est-à-dire pour tout candidat, de parvenir d'abord à la présidence des États-Unis et bien sûr à la vice-présidence des États-Unis. Dans le cas de Marco Rubio, je crois que tout le monde serait très heureux qu'il puisse être, disons, un candidat à la vice-présidence. Comme ça, cela pourrait peut-être renforcer le Parti républicain qui a toujours du mal à attirer, si vous voulez, les minoritaires durant les élections générales aux États-Unis. D'Amérique.
Alors, professeur, l'État de Floride a déjà deux fers au feu, si l'on peut dire, dans cette course vers l'investiture du Parti républicain. On a l'ancien gouverneur Jeb Bush.
Oui, c'est
frère d'un ancien président, alors, fils d'un ancien président.
Je t'entendais à merveille, mais Jeb Bush, eh bien, il a également, il est fort, mais il a également des faiblesses. Jeb Bush a 62 ans, fils et frère de président, respectivement George H.W. et George W. Bush, enfin les deux, son père et son frère, enfin les deux ont été présidents des États-Unis, et lui, il a été gouverneur républicain de Floride de 1999 à 2007. Il est assez conservateur. Sa campagne en vue de l'élection de 2016 est lancée. Bon, bien sûr, il n'y a pas encore fait de déclaration officielle, mais c'est-à-dire il tâte le terrain, il est partout où sont les autres candidats, et il fait parler de lui depuis le 6 avril en reconnaissant avoir commis une erreur en cochant la case hispanique sur un formulaire d'inscription sur la liste électorale en 2009. Donc, grâce à son nom de famille, il est assez bien vu par les bailleurs de fonds du Parti républicain. Il semble pour l'instant, il pourrait être parmi les favoris, si vous voulez, de la course à l'investiture. Mais il n'y a pas que lui, parce qu'il y a Rand Paul, il y a Scott Walker, il y a Chris Christie, et il y a le pasteur là, Mike Huckabee, qui était candidat à l'investiture de 2008, et ex-gouverneur de l'Arkansas. Il y a également Rick Perry, qui vient de quitter ses fonctions de gouverneur du Texas. Il y a même Paul Ryan, membre de la Chambre des représentants, où il représente la première circonscription du Wisconsin depuis 1999. Et puis, il y a le très médiatique neurochirurgien Ben Carson. Et puis, il y a l'homme d'affaires Donald Trump, etc. Et puis, il y a Rick Santorum. Donc, alors,
il y a foule dans le Parti républicain.
Certains d'entre eux se sont révélés un peu forts ces jours-ci, mais comme vous avez si bien dit, la course est longue, c'est un marathon politique et on doit avoir beaucoup de courage pour ne pas être éreinté et pour ne pas s'arrêter, si vous voulez, en cours de chemin.
Alors, professeur, nous avons notre ami Cédric Cabé qui dit que le Parti démocrate a déjà eu deux mandats à la Maison-Blanche et que, est-ce que c'est pas les républicains qui pourront passer, ça a été rare dans l'histoire américaine.
Il existe toujours cette possibilité. Il y a la possibilité de l'alternance aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays démocratique, on comprend ça. Et surtout avec leur majorité parlementaire, ils ont acquis la majorité au Sénat. Mais il y a, parfois les États-Unis, au point de vue politique, eh bien, il y a une action comme une sorte de balancier. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est un parti qui détient la présidence, et puis demain, c'est un autre parti. Aujourd'hui, c'est un parti qui détient la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, et un autre jour, c'est tout à fait le contraire. Donc, alors, on ne peut pas savoir, moi, moi je trouve que c'est un peu trop prématuré. Mais il y a des choses qu'on peut déjà établir. Il y aura toujours un candidat républicain, c'est tout à fait sûr. On ne va pas savoir qui pour le moment, puisque c'est prématuré. Et du côté démocrate, il va y avoir un candidat, si vous voulez, qui représente le parti. Est-ce que ça va être Hillary? On ne sait pas, mais pour le moment, puisque c'est elle qui est, si vous voulez, la plus forte, puisqu'il n'y a personne d'autre. Et bien sûr, il y a des hésitations, il y a des noms qui sont cités.
Et tout à fait, il y a également
beaucoup d'hésitations.
Donc, professeur, nous serons fixés.
Être assez forte pour le moment.
Nous serons fixés.
Puisque, comme vous l'avez dit, c'est un marathon.
Et voilà, nous serons fixés à l'issue de cette course à l'investiture du parti.